18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. On se jeudi 16 mai, c'est Time Sport comme chaque soir de 18h à 19h avec toute l'actualité de la journée concernant la planète sport. Avec vous, chers auditeurs, chers auditeurs, ce soir on accueillera un invité de marque, Mehdi Tarart, footballeur international algérien évoluant au poste de défenseur central au RC Lens. Vous restez donc connectés tout au long de cette émission avec le 01 53 48 3000 et le hashtag TimeSport sur la twittosphère avec vos consultants et essayez de remporter de nombreux livres avec le partenaire Talent Sport et des maillots de vos clubs préférés. Au menu de cette émission, on reviendra sur les clubs allemands vent debout contre le projet de la réforme de la Champions League, les équipementiers dans le football, mais aussi la Copa América 2019 qui se déroulera dans moins d'un mois, du 14 juin au 7 juillet du côté du Brésil. Et on terminera avec les retrouvailles au bercail de Juninho, futur directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Et avec moi ce soir pour m'accompagner en plateau, on aura Kamel Aïd Kaira. Comment ça va Kamel, notre président? Tu vas bien Kamel? Merci. Depuis hier?
Depuis hier ça va très bien et je suis ravi d'être présent et je souhaite un grand bonjour ou bonsoir aux auditrices et aux auditeurs.
Ouais, les petites dédicaces, ça sera en fin d'émission, il n'y a pas de problème.
Non, je te le promets. Tous nos auditrices.
Tu as raison, tu as raison. Voilà. Tu as raison, il est pas mal le polo, Kamel.
Merci.
Simon Balachev est un peu comme toi aussi. Comment ça va?
Buonanotte, ça va. Ça va très bien.
Maillot vintage aussi.
Oui, 98, maillot 98,
floqué. Sans
Cafou.
Cafou,
numéro 2.
En tout cas, c'est super sympa de l'avoir avec nous ce soir, avec Yacine Bouali. Comment ça va, Yacine?
Ça va, tout va bien.
Tu vas bien?
Ça va.
Ouais.
Buenas noches.
On est un peu sur la plaine ibérique ce soir avec Juan José Dorado qui fait son grand retour dans le Time Sport. Comment ça va, Juan José?
Buenas tardes, pas buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes.
Azul Felaoun. Voilà.
Faut attendre 19h. Au moins 19h.
Allez, on voyage un peu.
La différence en Kabyle, c'est qu'Azul, c'est à toute heure, tout le temps, et c'est le salut du cœur. C'est très important.
Allez, on prend le chemin des vallées bavaroises.
Time Sport, le ras-le-bol.
Les clubs allemands vont debout contre justement ce projet de réforme de la C1. Yacine, comment expliquer cette unanimité, cette unité autour du projet de ligue fermée? Le Bayern Dortmund ne se désolidarise. En fait, ils essayent tout de même de rester solidaire, mais d'une autre manière. Certaines personnes, membres du directoire du Bayern de Munich et aussi de Dortmund, sont pas très très d'accord avec tout ce qui commence à s'opérer en douce.
Ouais, pour aujourd'hui la ligue allemande concernant les réformes de
cette Bundesliga.
De la Bundesliga. Après, il faut savoir que le Bayern, c'est lui qui a tout à peut-être à perdre. Dans cette réforme.
Mais pourquoi donc? Pourtant, le Bayern est riche. Le Bayern peut.
Le Bayern est riche, mais dès qu'on touche à ses intérêts, oui. Après, qu'est-ce qu'ils pourront faire contre tous les clubs qui voilà, c'est-à-dire à un moment donné, il faut répartir, trouver une solution pour arranger tout le monde. Mais ça reste le Bayern, et je pense qu'ils ont. Ils ont un pouvoir très 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 fort au sein de. Les raisons de leur parole, elles comptent pour beaucoup quoi.
L'Allemagne, la Bundesliga, ses clubs ont-ils raison, Simon?
La Bundesliga a le même problème que la Ligue 1. Hein. On le sait, la Ligue 1, les clubs de Ligue 1 se sont réunis autour de Noël Le Graët pour étudier cette réforme. Ils l'ont refusée, à l'exception, et ça c'est le parallèle à faire avec les Allemands, de Lyon, de Marseille et du PSG. Qui n'ont pas voté pour, qui se sont abstenus. Ah ouais. C'est pour ça que je fais le parallèle. C'est-à-dire que eux aussi, il n'y a pas de souci. Il y a une petite intrusion sur le plateau.
Ah, il aime le foot aussi, lui aussi.
Oui, il y a un parallèle à faire parce que voilà, il y a une diplomatie à faire de la part du Bayern, de Dortmund par rapport à leur col religionnaire en Bundesliga. Après, on n'est pas dupes. Mediapart l'avait dévoilé l'année dernière, côté Allemagne. Le Bayern fait des tractations en douce pour que cette Super League se fasse. Je pense que PSG fera la même chose, qu'Olas fait la même chose, s'il est dedans. Non, c'est faut pas être dupe. Après, les autres clubs de Bundesliga, ont, comme les autres clubs français, ont tout intérêt à s'opposer à cette réforme, puisque si Super League il y a, ce sera très rapidement tourné exclusivement vers les gros clubs. Ah oui. Et les autres dommage. Clubs n'auront aucune chance ou presque de d'arriver à ce niveau-là.
Ouais, toi, amoureux des clubs tels que l'Ajax ou encore Tottenham, on les verra plus.
Ou quoi. Angers.
Oui, Angers, pourquoi Angers. Pas. Et même à Amiens. Ouais.
Tu aurais pu
ligue fermée.
Parler des Espagnols.
Non, mais titrer.
On arrive aux Espagnols.
Ce thème, les ligues européennes contre la réforme de la C1.
Pas faux.
Aucune ligue européenne est pour cette réforme. Aucune. Toutes sont contre. Il n'y a pas que les Allemands. Il y a les Français. On sait que il va y avoir une contre-proposition qui va être lancée par Noël Legret. Qui certainement va retrouver l'appui de d'autres ligas. Le mal-aimé Tebas en France, depuis le premier moment, a dit qu'il est hors des questions que ça se fasse. Ce projet est difficile de le faire si les ligues sont contre. Donc forcément, on a parlé des trois abstentions entre guillemets en France. PSG, Marseille, Lyon. On peut parler aussi du Barça, Real, Atlético, voire Séville ou Valence encore, qui pourraient prétendre être parmi ces 28 qui vont jouer tout le temps, entre guillemets encore, cette Liga au Super Champions League. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Je ne crois pas que ce projet, au-delà du fait qu'on copie les Américains par rapport à la NBA ou par rapport au football américain, c'est pour mon commercial, c'est juste une question d'argent. Et je rappelle tout simplement ce qui a été dit par les Grecs, mais aussi par Thérèse, à un moment donné, le football, c'est les supporters. Et vous ne pouvez pas réduire le football à 28 équipes, voire à 32. C'est beaucoup plus que ça. C'est plus des 300 équipes en Europe.
Juan, mais le pouvoir de l'argent...
Ouais, Écoutez, juste un petit mot. Les Grecs a trouvé quand même le truc quand il a dit, c'est simple, on va proposer les mêmes jours des matchs des Ligue 1. C'est tout con, c'est tout simple.
Et c'est très intéressant ce que tu dis.
Au PSG, va devoir choisir. Comme il ne peut pas se passer de la Ligue 1 parce qu'il serait en dehors de cette super Champions League, ils vont forcément céder à la fin.
Est-ce que c'est pas une stratégie aussi pour au lieu de, c'est-à-dire de, je parle cette Super League, c'est-à-dire de jouer énormément de matchs de Ligue des Champions. Peut-être ils vont trouver un moyen de s'arranger.
Il y a les droits de télé. Mais il y a que vous allez dévaloriser, et ça les ligues, les présidents des ligues l'ont compris, vous allez dévaloriser les ligues nationales, et derrière ça c'est les sélections nationales que vous êtes en train de dévaloriser.
Est-ce que c'est pas une idée derrière de créer peut-être à moyen terme une Super Liga européenne?
Mais c'est sûr et certain, mais c'est là où tu parlais de modèle américain. Peut-être que l'UEFA doit s'assumer complètement et du coup assumer les conséquences, c'est-à-dire s'assumer complètement, créer un modèle sportif professionnel voué au spectacle et au commerce et au marketing avec ces grands clubs, et laisser du coup les ligues nationales de côté et vraiment enlever le PSG, Bayern, Barça de leur ligue pour faire cette ligue européenne.
Je pense.
Dans ce cas-là, il faut l'assumer complètement. Mais comme tu l'as dit, ils en subiront les conséquences parce qu'il y a énormément de supporters qui continueront de suivre leur ligue nationale.
Alors, notre président Kamel Aydkera, justement, réaction concernant cette ligue fermée ou...
Moi je pense que c'est un ballon d'essai de l'UEFA qu'ils ont lancé. Après, les clubs, que ce soit les clubs français, espagnols, italiens, etc., faut pas se faire d'illusions, et tu l'as dit Simon, ils iront où il y a le plus d'argent. Si demain il faut qu'ils sortent de leur championnat respectif et ne jouer qu'une ligue fermée et qu'ils gagnent à côté de ça des millions et des millions et des millions, ils le feront. Comme ça s'est fait.
Le football changera quand même.
Parce que le football va évoluer.
Mais malheureusement.
Voilà, oui.
Mais pour des personnes, pour nombre de millions de personnes, malheureusement ça changera. Ouais, on va s'adapter.
Si on demande aux supporters d'assister toutes les semaines à des Bayern, Real, tout ça.
Oui. Ouais, mais on s'en lassera. On voudra aussi l'équipe telle que je respecte Amiens ou même Angers.
Bien sûr.
Mais
les gens qui vous le regardez Amiens, vous regardez Amiens.
Non, mais contre.
On parle des téléspectateurs. On parle des droits télé. Demain, tu as une Super Ligue européenne. Toutes les semaines, tu as un Real Barça ou tu as un Dortmund.
Ouais, c'est vrai que.
Un Dortmund Manchester. Et ça, c'est attractif.
C'est palpitant,
on le veut ou pas. Sur le plan pécunier, ça pourrait apporter aussi quelque chose.
Parce que c'est vrai, voilà, et au niveau des droits télé, etc., tous les droits iront à cette Super League. Je dis pas que je suis pour, hein, mais tous les droits iront à cette Super League. Et à un moment donné,
pas forcément
les...
Kamal. Hein.
Non, mais je veux dire le maximum de droits. Mais à ce moment-là, les championnats hexagonaux, que ce soit français, etc., ils vont s'aligner tout bêtement parce qu'on faut être réaliste. On ne peut rien contre la puissance financière. Si la chose est lancée, rien ne pourra l'arrêter. C'est simple. Là, tout le monde va vent debout, mais il y aura sûrement un arrangement. Il va y avoir des réunions, il va y avoir des concertations. Et je pense qu'il y a un moment donné.
Juste, il faut se rappeler de
Alors, on laisse terminer.
Il y a un moment donné, ils vont leur dire c'est ça ou vous perdez tout. Donc, à un moment donné, les ligues vont accepter.
Ouais. Il faut juste se rappeler, il y a quelques années en arrière, sur l'introduction de la VAR dans le football. On disait, l'arbitrage vidéo, ça va dénaturer le football. Bah, aujourd'hui, il s'est imposé comme une évidence.
Et je rebondis sur ce que disait.
Ouais, la VAR.
Moi, ça fait 2-3 ans sur la VAR, je l'ai dit. La VAR, ce n'est qu'une, ce n'est qu'un cheval de Troie pour faire rentrer la publicité dans le football. Exactement. Ça fait 20 ans, 30 ans que les publicitaires essayent, les financiers, de rentrer la publicité dans le football. Il y a toujours eu un arrêt. Les instances ont toujours été contre. Et moi, j'ai toujours dit, la VAR, c'est un cheval de Troie. Et là, ils vont mettre la publicité. Et là, maintenant, l'UEFA sont en train de réfléchir. Ils vont faire un essai avec la publicité pendant
les interruptions du VAR.
Voilà, les interruptions de la VAR. Et alors que tout le monde disait, c'est impossible. Bah, voilà.
Juste deux petites choses. Derrière la casse sportive que ça va supposer avoir cette Super Champions League, il y a la casse économique par rapport à des clubs. Les clubs, aujourd'hui, c'est des sociétés. Il ne faut pas oublier. C'est des
sociétés de le rappeler.
Qui vont disparaître, pour beaucoup, qui vont disparaître. Donc, et derrière, vous parlez des téléspectateurs, mais qui vous dit, à vous, que Netflix ne va pas dépenser 500 000, 1 milliard
en plus,
pour
on
avoir
est dans
les
ce...
droits en exclusivité.
On est dans ces délires-là,
si
en ce moment.
Vous voulez avoir du foot, du grand foot, vous allez payer 50, 60, voire 100 euros par mois.
On paye combien, Simon, pour avoir du foot? Non, mais il faut s'abonner à 4, à Bein, à Canal+, à RMC. C'est pareil.
Je suis d'accord.
Mais rien ne n'est pas faux, en prendre ça.
La casse économique va au-delà des clubs. Vous avez raison quand vous parlez des boxes, quand vous parlez de Free, des Bouygues, etc. Il y a une casse économique derrière. Ouais. C'est des son plan. On ne se rend pas compte de ce que ça.
Quand tu parles des sociétés et de ces clubs.
Dernièrement, cette histoire, ça fait 30 ans. Rappelez-vous, parce qu'on a un certain âge.
Ça fait longtemps.
C8. Hein, les C8, les plus grands clubs d'Europe, il y a 25 ans, se réunissaient déjà pour parler d'une ligue fermée. Après, il y a eu le C14. Avec l'arrivée des Lyon et le PSG, c'est C14 à un moment donné. Maintenant, on est en C28, C32, si vous voulez. Donc, ça fait 25 ans qu'on tourne autour du pot pour arriver à cette proposition de réforme de la Champions League.
C'est bon.
Oui, après, quand tu parlais de modèle économique pour ces petits clubs, pour ces sociétés, faire une Super League comme ça, c'est amoindrir les flux d'argent vers les ligues nationales. Et c'est des petites morts à échelle régionale pour, on a cité Amiens, on a cité Angers, mais on pourrait citer Montpellier, des gros clubs d'envergure nationale. Montpellier, Saint-Étienne, Lille, qui se retrouvent.
Mais moi, je pense qu'il y aura...
Est-ce qu'on empêcherait l'UEFA de créer... Il y a la Super League, ils vont créer une autre ligue avec les petits clubs, avec les clubs moyens d'Allemagne, de France, de Belgique,
Est-ce que Netflix alignera des milliards, des millions pour cette compétition.
Regarde la Ligue 1.
Même
regarde la Ligue 1, un milliard.
Dessus.
Qui aurait dit
parce
un milliard.
Qu'il y a le PSG.
Non. Oui, non, mais.
S'il n'y a pas le PSG, je ne pense pas que les médias payent un milliard.
C'est ce qui va se passer. À la limite, l'UEFA, quand il y aura cette ligue fermée, elle aura de l'argent et elle va dédommager les ligues et les clubs nationaux. C'est ce qui va se passer. C'est comme ça le modèle économique.
Kamal, puisque les frontières ont disparu.
Bah oui.
Pour ce qui est frontières en Europe ont disparu, pratiquement ont disparu. Pourquoi pas, ils vont réfléchir à créer une Super League des grands clubs et des clubs moyens, et voilà, première, deuxième, troisième division, premier collège, deuxième collège, troisième collège. Et ça va être comme ça, c'est le pouvoir de l'argent. Maintenant, si on veut que ça ne se réalise pas, c'est le moment de bouger et de se révolter, chacun donnera son avis. Mais le pouvoir.
Écoute, on est en pleine élection européenne, pourquoi pas unifier tous les championnats européens et pour que voilà, le but ultime soit de jouer les championnats, puisque ce ne serait plus des coupes, mais ce serait des championnats européens, pourquoi pas après.
Regarde, Juan, pour regarder le foot maintenant,
Kamel.
T'es obligé de prendre. Je peux citer des noms, ça ne dérange pas. Canal Plus, Bein, RMC, et maintenant t'as pour la Ligue 1 espagnole. Ça veut dire il va falloir un citoyen lambda en France, 4 abonnements. Ça va revenir à plus de 150 euros.
Sauf
c'est
que
ça.
Le modèle économique
c'est ça,
va faire que moi, deux de ces opérateurs vont perdre le foot. Il y a 10 ans, personne n'aurait dit que Canal était au mesure de perdre le foot espagnol.
C'est du pimpou.
Je partage le
modèle économique est intenable.
Regarde, quatre opérateurs différents. Je partage le gâteau.
Et on attend l'arrivée de Netflix, qui fait déjà des documentaires sur
le football, le sport.
Southampton, la Juve.
Voilà, sur Anelka. Donc, attendez
Canal Plus. Canal Plus a perdu quasiment tout le football anglais. J'ai lu une interview du président de Canal Plus dans Le Monde qui disait on a de moins en moins besoin du foot dans notre modèle économique. Et ben, il s'est aperçu qu'ils ont perdu plus d'un million d'abonnés parce qu'ils avaient perdu la Ligue anglaise, ils avaient tout perdu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est revenu sur ses propos et ils ont repris les droits TV de la Ligue anglaise. Ils ont racheté à RMC. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a tellement. Moi, regarde. C'est entre guillemets, c'est vital. Je suis obligé, je m'abonnerai. Et si demain il y a un cinquième opérateur pour voir, je m'abonnerai. On est
après,
tous comme ça.
Après, il y a des moyens.
On adore le foot.
Il y a des moyens.
Oui, non, mais.
De toute façon, le modèle économique du foot actuellement, le modèle économique du football n'est pas viable. On a des clubs qui marchent la tête à l'envers, qui marchent sur des dettes astronomiques, qui sont financés.
Merci,
on sait trop comment.
Simon. On se retrouve de suite après avec vos consultants. C'est promis, le hashtag TamSport. À de suite.
TimeSport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, TimeSport avec Bilal Nedman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 18h-19h, en compagnie de vos consultants, comme chaque soir, sur l'antenne de Beurre, avec Yacine Bouali, Simon Balachef, Juan José Dorado et Kamel Aïd Kaira qui est avec nous, sans oublier le petit clin d'œil au sud de la France, Toulouse, qui nous écoute au 96.9 et aussi 3, 94.3. Nous, on prend le chemin de Lens.
TimeSport.
Et Mehdi Tarart, footballeur international algérien évoluant au poste de défenseur central au RC Lens, est l'invité ce soir de Beurre FM dans l'émission TimeSport. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir à vous.
Comment allez-vous Mehdi?
Écoutez, nickel.
Nickel, justement. Ah ben Mehdi, une saison qui risque encore de se terminer, malheureusement sans monter. Pourtant, la ferveur du public lensois a été présente, bon, peut-être pas assez suffisante pour vous propulser vers les sommets de la Ligue 2. Vous en pensez quoi sur cette saison?
Non, écoutez, le public, je pense qu'il a joué son rôle correctement. Après, c'est nous, en tant que joueurs, qui avons travaillé à ce niveau-là. Après, la saison n'est pas finie. Il reste une place de barragiste à accrocher pour une éventuelle montée en Ligue 1, voilà, qui sera certes plus dure, mais pas impossible.
Ouais. Une réaction, Mehdi Tarart, avec notre consultant, Yacine Bouali. T'écoute, Yacine.
Salut, Mehdi.
Salut, Yacine.
Ça va, tu vas bien?
Ouais, nickel.
Ça y est, on revient à la forme après cette blessure. C'est un vieux souvenir?
Ouais, ça y est, c'est derrière moi.
Et dans quelques jours, c'est la CAN.
Ouais, Inch'Allah.
Et alors? Prêt pour...
Prêt pour la CAN?
Oui.
Oui, bien évidemment. On travaille pour la fin de saison avec le RC Lens et également dans l'optique de la CAN.
Justement, qu'est-ce qui a manqué cette année au RC Lens midi parce que quand on voit l'effectif, quand on voit les moyens, quand on voit le public du RC Lens, et on se dit à chaque fois, quand même... Ça reste le public numéro un en France et comme Bilal l'a dit, la ferveur populaire. Et cette année, j'ai l'impression que la mayonnaise n'a pas pris.
Bah écoute, déjà, je pense que le facteur chance qui nous a fait un petit peu défaut parce que la première partie de saison était bonne et on a enchaîné blessure sur blessure au sein de l'effectif. Et ensuite, je pense de l'expérience, parce que tous les matchs qui se sont avérés être des tournants pour nous, décisifs pour l'accession au Ligue 1, on n'a pas su les aborder correctement.
Une réaction avec Simon Balachef, Mehdi Tarart, on le rappelle, international algérien et aussi défenseur central au RC Lens.
Oui, bonsoir Mehdi. Moi, je voulais vous parler un petit peu de la CAN. Vous êtes dans le groupe, enfin l'Algérie est dans le groupe du Sénégal, de la Tanzanie, et du Kenya. Comment jugez-vous ce groupe avec un mondialiste, une Tanzanie qui peut être piégeuse et un Kenya relativement inconnu?
Écoutez, je pense que... Au niveau des groupes, c'est pas celui qui me semble être le plus corsé, mais c'est un groupe qui va pas être évident et quoi qu'il en soit, il va falloir ressortir dans les deux premières places pour pouvoir se qualifier.
Ça c'est certain, mais du coup par exemple, comment vous allez relever le défi de la Tanzanie qui travaille, qui est une équipe qui travaille assez bien, un championnat qui travaille assez bien. On l'a vu cette année en Ligue des Champions d'Afrique avec le parcours du Simba. Comment vous allez préparer un match piégeux comme ça contre la Tanzanie?
Ça, écoutez, je pourrais pas vous donner les clés. Les clés pour
on aimerait
de ces matchs, mais je pense que le coach et son staff seront faire l'analyse nécessaire pour pouvoir nous les donner et après on verra en fonction.
Alors on poursuit l'interview avec Mehdi, avec Yacine aussi.
Mehdi, après avoir connu le Red Star, le SCO d'Angers, est-ce que pour vous le RC Lens a été le club idoine pour vous épanouir, parce que quand même vous avez un joueur qui est plein de talent. Est-ce que au niveau de la structure du club de Lens, vous avez trouvé, on va dire, l'environnement qui vous convient?
Ouais, c'est un très très bon club avec une ferveur comme vous l'avez décrite qui est exceptionnelle et ça en tant que joueur c'est quelque chose qui est très appréciable. Après, d'un point de vue individuel, moi j'ai ma saison qui a été un petit peu ternie par ma blessure et c'est vrai que l'objectif de monter était un point essentiel lorsque je suis venu à Lens. Donc s'il s'avère qu'il n'est pas réalisé, voilà, ça sera une touche noire dans ma venue.
Justement, pendant votre convalescence ou depuis que vous êtes rétabli, est-ce que Jamel Belmadi, le sélectionneur national algérien, a pris contact avec vous ou la fédération pendant cette période ils étaient en contact régulier pour savoir où vous en êtes, parce que quand même vous êtes un pilier de la défense des Fennec?
Ouais, j'ai eu des contacts réguliers avec les membres de la fédération algérienne de football, comme je pense la plupart des joueurs algériens, parce que le coach l'avait précisé, il viendra aux nouvelles régulièrement de ces joueurs et voilà, j'ai la chance d'avoir un échange régulier et de pouvoir donner des nouvelles au fur et à mesure de mon avancée.
Kamel Enkera avec Mehdi Tarat.
Bonsoir Mehdi, c'est
international algérien.
Je voulais vous poser une question. Vous avez 29 ans. Quel sera votre avenir? Est-ce que vous souhaitez jouer dans un club de Ligue 1? Est-ce que vous avez des contacts ou quel est ce que vous souhaitiez le plus? Parce que c'est vrai que
la saison prochaine,
l'objectif de monter avec Lens en Ligue 1 ça aurait été parfait pour vous. Mais vous, quel est votre objectif? Si c'est pas indiscret, bien sûr.
Oui, bien sûr. Bah écoutez, j'ambitionne de jouer au meilleur niveau et le meilleur niveau effectivement c'est d'être en Ligue 1. Après vous parlez d'aller jouer ailleurs ou pas, non, c'est pas un sujet d'actualité pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, il reste encore un match qui va nous permettre de pouvoir éventuellement défendre nos chances lors des barrages, même si ça va être un parcours assez difficile. Donc c'est un point qui n'est pas encore négligeable. Et ensuite, dans l'immédiat et dans un futur proche, participer à la Coupe d'Afrique des Nations avec mon pays et réaliser une belle compétition. Et ensuite, voilà, je pense que j'aurai tous les ingrédients pour prendre la meilleure décision quant à mon avenir.
En tout cas, on l'espère de tout cœur, Mehdi Tarat, de participer, de faire un magnifique parcours avec la sélection des Fennec, la sélection algérienne. Simon Balachef, on t'écoute.
Oui,
avant la fin de cette interview.
C'est sûr que parler d'un transfert à court terme, c'est très compliqué, surtout après avec le match qui vous attend contre. C'est Orléans, hein? Je me trompe pas.
Bien sûr, Orléans.
C'est Orléans. Ouais. Mais en revanche, à long terme, parce que je me posais une question, parce que il y a plusieurs joueurs, c'est une petite mode qui est arrivée, des joueurs marocains, tunisiens, nés en France, ayant fait une grande partie de leur carrière en France, qui sont parfois retournés, aller au Maroc, en Tunisie, terminer leur carrière. Est-ce que ce genre d'aventure vous tenterait dans le championnat algérien?
Comme vous l'avez précisé, pour l'instant, c'est pas un sujet est d'actualité, mais
à long terme, hein, je moi, parle, voilà.
À long terme, moi, ça peut être quelque chose qui me tenterait effectivement.
Et vous auriez un club en tête?
La GSK, bien sûr.
La GSK. Ah,
étant jeune, effectivement, ouais. Je suis porté de la GSK.
Ouais. Il est originaire de Bouger, donc ça peut être le mot pour la GSMB.
Alors, allez, Juan José Dorado, oui, réaction avant de terminer cette magnifique interview avec Mehdi Tara.
Je vais aborder à notre sujet avec vous, connaître votre avis des joueurs. On a eu des débats assez enflammés dans ce studio par rapport à la réforme de la Champions League et la création de cette super Champions League, plus ou moins fermée. Alors, quel est votre avis en tant que joueur, justement? Quel est votre avis? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça ait une répercussion, justement, sur les championnats nationaux, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, justement la création de cette Super Ligue européenne avec 28 clubs qui seraient en permanence qualifiés?
Si, bien sûr, je pense que comme la plupart des joueurs, je ne vais pas être pour, parce que je pense que ça va pénaliser une majorité pour privilégier une minorité. Et après, est-ce que ça aura réellement un intérêt pour hisser le niveau du football européen, je ne sais pas. Donc je suis sûr que ça aura des conséquences négatives. Après, est-ce qu'il y aura des avantages à en tirer? Je ne sais pas.
Ouais.
Donc voilà, c'est mon
avis. Reste à voir. C'est l'avis de Mehdi Tara. On termine avec toi, Yacine.
Ouais, Mehdi, pour
conclure, avant de laisser filer Mehdi.
Tu vis avec le groupe des FENEC depuis quand même 2 voire 3 ans. Tu penses aujourd'hui que nous sommes capables de gagner cette CAN qui nous fuit depuis 1990?
Bah écoutez, gagner une CAN, c'est pas quelque chose de simple, mais je pense que chacun des joueurs, lorsqu'il s'apprête à disputer ce genre de compétition, j'espère qu'il a l'objectif en tête d'y aller pour la gagner. Donc nous, c'est le cas. Après, aujourd'hui, je pense que il y a un certain climat, une certaine stabilité qui commence à s'installer avec l'arrivée du coach. Voilà, il y a une bonne ambiance au niveau des collectifs entre les joueurs. Donc je pense que tous les ingrédients peuvent être réunis pour faire une grosse compétition. Et j'espère, Inch'Allah, oui, qu'une victoire possible pour remporter cette CAN se fera.
On le suivra de près, en tout cas. Mehdi Tara, la sélection algérienne et aussi les autres sélections africaines. On vous le rappelle, des émissions spéciales. Ce sera un Tam Sport, mais spécial CAN, édition 2019 de cette CAN, voilà, que vous pourrez suivre de 18h à 19h et des soirées spéciales à venir sur l'antenne de Beurre FM. Un grand merci à Mehdi Tara d'avoir été avec nous.
Merci Mehdi.
Et nous, on poursuit l'émission.
Tam Sport, la victoire.
Sponsoring à l'antenne de Beurre FM, les équipementiers Nike, Adidas ou encore Puma sont en pleine bataille pour les top clubs. Ah, ça fait sourire Kamel, j'ai bien peur là. Les deux géants du sport et leur challenger ne jurent plus que par leur grand club. Un rayonnement mondial pour accompagner leur propre conquête sur le marché. Grande manœuvre chez les équipementiers engagés dans une guerre sans merci pour fournir les top clubs qui feront rayonner leur marque dans le monde. Nike, Adidas, mais aussi Puma dépensent plus que jamais pour renforcer leur position dans le gotha du football européen. Plusieurs grandes écuries s'apprêtent à changer de casaque. D'autres l'ont fait récemment ou ont prolongé. Dans tous les cas, il faut le rappeler, chers auditeurs et chers auditeurs de Beurre FM, de fortes revalorisations à la clé. Cette valse des équipementiers est-elle compatible avec l'attachement affectif que l'on clame généralement haut et fort envers son club de cœur? Kamel.
Oui, de toute façon, les supporters, ils sont attachés au logo qu'il y a sur le
maillot. Hein,
ils sont attachés au logo qu'il y a sur le maillot, mais
oui,
pas à la marque.
Il en a beaucoup, lui.
C'est vrai que c'est des sommes astronomiques. Hein. C'est des lignes budgétaires pour les clubs. Hein. Quand vous voyez que Liverpool, qui je peux citer les marques ou pas?
Vas-y.
Qui sont avec New Balance, qui touchaient 52 millions par an. Là, ils vont signer un contrat avec Nike sur 10 ans de 900 millions d'euros. Ça fait 90 millions d'euros par an. Donc, c'est avec ça, ils peuvent s'acheter beaucoup de joueurs. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Ils passent vraiment dans une autre dimension.
Ouais, football business, quoi.
Pareil pour Arsenal, hein, qui passe de Puma à Adidas et qui a multiplié par deux son budget. Il passe de 33 millions d'euros par an à 65. Et la nouveauté, c'est que les équipementiers signent maintenant, avant c'était 3 ans, 4 ans. Maintenant, la nouveauté, c'est que les équipementiers signent 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, les clubs, ils peuvent budgétiser leur achat de joueurs. Ils se disent, voilà, ouais, on a 900 millions d'euros bah, pendant 10 ans. Et comme le fair play financier, c'est sur 3 ans, donc pendant 10, ils se disent, 3 ans, on peut dépenser 300 millions d'euros en joueurs. On va
alors, tous 3 ans.
Mais c'est vraiment là, c'est la bataille, c'est incroyable.
Ouais, Simon Balachev, on écoute.
Comme d'habitude, je compte comme les transferts, les équipementiers, les droits télé, toutes ces sommes d'argent dans le football, je les constate et ça me navre.
Ouais.
Ça me navre parce que tu as parlé, voilà, ça fait enfler. Voilà, je crois que t'as dit ça fait enfler les budgets. Pour moi, ça fait enfler la bulle spéculative sur le football. Ils signent sur 10 ans sur quelque chose qui peut-être ne sera plus viable dans 10 ans. Ils donnent des sommes d'argent qui vissent, qui rendent notre sport vicié dans les affaires, dans les relations humaines qu'il y a entre les différents partenaires. Donc, moi, ces sommes d'argent-là, je les constate, je les prends, on peut rien y changer. Tu l'as rappelé plusieurs fois, Yacine, le pouvoir de l'argent, c'est vrai. Donc, je ne peux pas trop changer quelque chose à part le dire. À chaque fois
merci
qu'on parle
Simon
de ces sommes d'argent, c'est
on reviendra de suite après. On aura la réaction de Juan José et aussi de Yacine, et sans oublier Kamel concernant les équipementiers du football. À de suite.
Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et d'autres jours sur l'antenne de Beurre FM, en compagnie toujours de vos consultants. Je vous rappelle, autour de la table, Simon Balachev, Kamel Aïd Kaira, Yacine Bouali et Juan José Dorado. On prend le chemin, allez, du Brésil.
Time Sport. Le duel.
Le soleil ne nous abandonne pas, en tout cas en zone Am Sud. La Copa América 2019, l'édition, se déroulera dans un mois et demi, dans un mois plutôt, du 14 au 7 juillet, du côté du Brésil, qui en est le pays hôte. Il faut le rappeler. Petit tour d'horizon des forces en présence. Quelles sont les équipes qui vous paraissent les plus aguerries pour aller le plus loin dans cette compétition, quand même? Juan José, on l'écoute.
Alors, Argentina, si je vous dis,
Brésil,
déjà Brésil parce que c'est l'organisateur, et parce que si vous laissez le Brésil en dehors des favoris, on va vous dire
c'est
que
impossible.
Vous ne connaissez rien au foot. même si souvent, ils restent au milieu de l'idée, ouais. Ils n'arrivent pas.
On s'est compris.
Mais bien sûr, il y a l'Argentine, je ne dirais pas l'Argentine de Léo Messi, parce qu'on sait que Léo Messi et l'équipe nationale, ça fait deux, ça ne fait pas un, ça fait deux.
C'est une souvent, finale de Coupe du Monde et deux finales de Copa América quand
mais
même.
Au-delà de ces deux grands, j'aimerais parler plutôt de ces sélections qui peuvent nous surprendre. Forcément l'Uruguay, pourquoi pas.
Ce serait pas vraiment une surprise.
C'est pas une surprise. Tu as raison par rapport au dernier mondial. Mais il y a un club, une sélection qui moi j'aimerais qu'il fasse plaisir, et c'est le Venezuela qui vit un moment
le
très
Venezuela.
Compliqué. Mais en même temps, c'est justement ces moments compliqués qui fait que ces joueurs se donnent à 100%. Il ne faut pas s'oublier non plus que par le passé, le Venezuela est allé battre le Brésil aussi et l'Argentine. Donc c'est vraiment une sélection qui est capable de faire quelque chose parce qu'il y a une situation géopolitique très compliquée.
C'est vrai. Venezuela, et puis, dans le groupe A, Pérou, Bolivie et Brésil.
Voilà, donc le Venezuela en groupe A, j'aimerais qu'il y ait la surprise. Et puis dans les groupes B...
un peu bizarre ce groupe B, mais on a invité quand même, il faut le rappeler.
Parce qu'il y a le Qatar.
Et le Qatar, avec le Paraguay, la Colombie.
Il y a toujours eu des invités dans la
Colombie. Oui, c'est vrai, il y en a toujours eu.
Il y a toujours eu. Moi, qu'est-ce que vient faire le Qatar dans cette compétition?
C'est un invité. C'est un invité, on respecte l'invité.
Il y a eu la Corée du Sud, il y a eu les États-Unis, il y a eu le Japon déjà une fois, il y a eu le Honduras, le Mexique régulièrement.
Oui. C'est vrai.
Il y a le Japon dans le groupe C.
Mais ils n'ont pas encore invité une sélection.
On poursuit, Juan José.
Donc il y a, non, y a, encore, y a la Colombie dans le groupe B qui pourrait effectivement être une belle surprise. C'est cette équipe sur qui on peut miser quelques cacahuètes quand même.
Ouais.
Et puis il y a sur le groupe C.
Le groupe C, il y a l'Uruguay, l'Équateur, le Japon, le pays, et le Chili.
Mais moi j'ai un petit pansement du cœur pour l'Équateur.
Ouais.
Petit pays, mais qui effectivement a mis en difficulté l'Argentine lors des qualifications pour le mondial
alors,
2018. Et donc, pourquoi pas ce petit pays qui nous ferait plaisir.
Alors, plusieurs choses.
On lance avec toi, Simon, avant de terminer avec Kamel.
Le Venezuela, le football vénézuélien, le football n'est pas le sport numéro un au Venezuela, c'est le baseball, se développe contre vents et marées depuis le 2007. Et notamment l'arrivée de l'actuel coach Dudamel, qui fait un travail exceptionnel, et notamment parmi les jeunes. Mmh. Et parmi les jeunes, les équipes jeunes du Venezuela font de plus en plus de très grandes performances dans les compétitions continentales. On pense à des petites pépites comme le gardien Fariñez, comme l'attaquant de Santos Soteldo, qui vient de là où des Chile. Voilà, ça, ce sera des joueurs à regarder qui vont être très intéressants. Et il y a aussi les anciens, il y a Juan Arango, il y a Rondon, il y a les vieux. Tu as parlé. Tu as parlé dans le dernier groupe du Paraguay,
de l'Équateur.
L'Équateur, pareil, il y a un très très bon travail chez les jeunes. On l'a vu à la dernière Copa América U20, l'Équateur qui a pris il y a peu de temps le Hernán Gómez, qui était le sélectionneur du Panama pendant la Coupe du Monde. Et enfin, on a parlé du Qatar et du Japon. Et ben attention, le Qatar et au Japon. Parce que le Qatar fait du très bon travail, a fait une Coupe d'Asie exemplaire du point de vue du jeu. Oui. Voilà, je parle vraiment du jeu. L'entraîneur Félix Sanchez a développé quelque chose de très intéressant. Et tu me rappelles le groupe ? Une Argentine.
Alors, c'est l'Argentine, Colombie, Paraguay. Voilà. Et le Qatar.
L'Argentine qui est dans un bazar ambiant où Scaloni est sans cesse contesté par les ménotistes et les billardistes, où Léo Messi a du mal à prendre la poigne. La Colombie, qui vient de passer de l'ère Pekerman à l'ère Queiroz, où on est dans une transition, c'est un peu compliqué. Et le dernier, c'est le Paraguay, à la rigueur. C'est le Paraguay, moi je trouve, qui serait éventuellement le plus armé, une très très belle génération, mais qui vient de passer d'un à un nouvel entraîneur, parce que Juan José Osorio s'est fait débarquer, et c'est Berizzo qui est arrivé.
Et on vous donnera toutes ces informations, croyez-moi, même pendant les spéciales de la Coupe d'Afrique des Nations sur cette édition 2019. Kamel, rapidement, un mot sur cette compa.
Je mettrai une pièce sur le Qatar,
sur Lyon.
Comme tu l'as dit, Simon, parce que Qatar a fait une très belle équipe. Moi, je pense qu'ils peuvent jouer, parce qu'ils jouent, détachés. Et puis moi, j'ai le Brésil, parce qu'ils ont Neymar qui est en forme. Il a quasiment pas joué de la saison.
Il est frais.
Il peut apporter quelque chose. Moi, je pense que le Brésil peut faire que. Mais je mettrai une pièce sur le Qatar.
La meilleure chance du Brésil, Kamel, c'est Tite. C'est leur sélectionneur. Neymar, tu peux l'enlever de l'équation. Tu peux l'enlever de l'équation si le peuple veut qu'il parte. Ça fera comme du Karim Benzema en équipe de France. Tu peux l'enlever de l'équation. Le Brésil, avec cet entraîneur-là, est totalement capable de créer un collectif capable de gagner des choses. C'est vraiment. Et en plus, la sélection a joué sur le long terme, vise des choses à la Joachim Löw en Allemagne, à la Deschamps en France. Voilà, ils l'ont pas. Il a pas été critiqué outre mesure après son élimination contre la Belgique. On travaille. C'est un monsieur qui travaille très bien, qui travaille sur le long terme. Et le meilleur joueur, le meilleur élément de cette sélection, c'est sectionnaire.
Plus trop de temps pour Lyon, mais on va arriver à Lyon. Un grand merci pour les consultants avec leur pertinence concernant cette Copa América qui arrive à grands pas. Allez, on revient du côté de Lyon.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, un mode pressing rapide là. Retrouvaille au Bercail pour Juninho, futur directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, 10 ans après son départ. Juninho va revenir donc à Lyon dans le costume de directeur sportif. C'est le retour d'un des plus grands personnages de l'histoire de la Ligue 1. Juninho emmènera-t-il ce suppléant d'âme qui manque tant à l'Olympique Lyonnais pour enfin franchir un palier? Juan José.
Oui, je l'espère, forcément, parce que il a le mérite d'avoir joué au club, d'avoir gagné cette ligue, les a toutes gagnées dans la série. Donc, effectivement, c'est peut-être le Leonardo parisien, ça va s'appeler Juninho du côté de Lyon.
Kamel, on termine avec toi, Kamel.
Oui, Juninho, parce que c'est un pur produit de la maison. Il connaît le fonctionnement du club et il peut travailler avec Olas, puisque Olas le désire à tout prix. Et pas n'importe quel coach ne peut travailler avec Olas, donc je pense que Juninho, vu qu'il est désiré, là tout le monde attendait son accord, hein, parce qu'il s'est remis avec son agent José Fuentes, et on parlait aussi de Sabri Lamouchi. Donc Sabri Lamouchi, il avait comme agent Bernès, et là il a pris comme agent Jorge Mendes, qui travaille avec Fuentes. Donc je pense que ça va matcher.
Merci Kamel, un grand merci à toutes les auditrices et les auditeurs, ça va tout de comme, et rendez-vous demain à la même heure, 18h.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.